Radio Rythme Bleu, il est un petit peu plus de 17h45. Info Soir, c'est avec vous, Liana Colombo.
Des objets volés rendus à leurs propriétaires par la police. Depuis près de 3 mois, beaucoup de biens ont été vandalisés et la police enquête. Électroménager, multimédia et équipements de jardin, les objets sont nombreux à être restitués. Des barges pour transporter son véhicule entre Nouméa et le Mont d'Or Sud. C'est ce que proposent des entreprises privées, le temps que l'axe de Saint-Louis soit de nouveau praticable en toute sécurité. Et les demandes ne cessent d'augmenter. Comment occuper les enfants pendant les vacances? Malgré les événements, les camps de vacances sont ouverts. Mais au Mont d'Or comme à Nouméa, c'est en effectif réduit que s'est effectuée cette reprise. Et puis du sport, le Mac des sports de ce midi était consacré au padel, un sport qui fait de nombreux adeptes sur le territoire. Un tournoi se déroulait ce week-end sur les terrains du Receiving et de l'Olympique. Et on parlera aussi Jeux Olympiques, forcément. Pas de titre en individuel en natation pour notre Calédonien Maxime Grousset, mais une médaille en équipe. Découvrez le programme complet à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Où sont passés les objets volés au cours des pillages de commerces et de particuliers? 3 mois après le début des émeutes, la police nationale n'a cessé d'enquêter pour retrouver les biens dérobés. Au mois de juin, 147 affaires de recel ont été enregistrées. En comparaison, il y en avait 32 au mois de juin 2023. Des appareils électroménagers, du multimédia, mais également beaucoup d'alcool. La directrice adjointe de la police nationale nous explique comment leurs équipes ont réussi à récupérer ces objets volés.
Ça peut être de plusieurs façons. Par exemple, on interpelle un individu pour un vol, puis à l'occasion de la présence au domicile, on voit qu'il y a des choses qui ont été dérobées, qui sont encore sous emballage, donc dans ce cas, on les récupère. Certains aussi qu'on a pu identifier grâce à des photos sur les réseaux sociaux. On voit des gens qui viennent de dérober des bouteilles d'alcool, par exemple, et qui se prennent en photo sur les réseaux sociaux. On peut aussi avoir des dénonciations qui nous arrivent. On peut contrôler des gens dans leur véhicule. Donc, on fait aussi des contrôles routiers avec des ouvertures de coffres, ce qui nous permet de voir qu'à l'intérieur, il y a du matériel dérobé. Donc, il y a plein de manières, en fait, de trouver des objets dérobés. Je pense que finalement, ce sont les enquêtes qui ont le plus payé, avec des signalements qui nous ont été donnés. Parfois, on nous a signalé des endroits où il y avait des allées venues, des va-et-vient, avec beaucoup de gens qui partaient avec des cartons et des choses comme ça. Et suite à ces renseignements, on a pu aller voir au domicile et constater qu'en effet, il y avait des choses qui avaient été entreposées.
Une fois les biens récupérés, reste encore à les restituer. C'est à notre travail d'enquête qui débute alors, celui de retrouver les propriétaires et leur rendre leurs biens.
On va rechercher sur toutes les plaintes s'il y a un signe distinctif qui nous permettrait de remonter sur une plainte qui a été déposée. Si une plainte n'a pas été déposée, mais qu'on sait que le vélo appartient à, par exemple, une collectivité, on va la contacter. Si on sait que c'est la province sud ou la mairie, on va les contacter directement et puis on pourra prendre la plainte à ce moment-là. On fait aussi parfois des diffusions sur les comptes de la police Facebook notamment, parce que c'est vrai qu'il y a aussi du matériel qu'on peut retrouver. Les propriétaires n'ont pas forcément déposé plainte, mais nous, s'il a une preuve d'un achat ou s'il peut nous dire qu'il a été propriétaire d'un vélo, évidemment qu'on le remettra et on sera content de pouvoir rendre l'objet dérobé. Et puis parfois, on a aussi des indices qui viennent parce que c'est du matériel de jardinage ou de bricolage. Et dans ce cas, on peut contacter également les gérants des commerces pour essayer de voir si ça leur appartient.
La semaine dernière encore, 18 vélos dérobés dans les locaux des Boucles de Tina étaient restitués à la province sud. Les biens dont les propriétaires n'ont pas été retrouvés sont, eux, délivrés à des associations caritatives. 3 groupes industriels sont toujours intéressés par la reprise de l'usine du Nord. C'est ce que nous a confirmé le PDG de la SMSP, Karl Terby, dans un entretien que nous avons diffusé ce matin, Gilles Ménage.
C'est il y a bientôt 6 mois que Glencore, actionnaire à 49% de KNS, a finalement décidé de se retirer après des années d'efforts pour tenter d'atteindre ses objectifs de production sans jamais y parvenir. Et après avoir accumulé plus de 1 000 milliards de francs de dettes, Glencore avait tout de même décidé de maintenir les salaires pendant 6 mois. Et la semaine dernière, KNS annonçait finalement un plan de licenciement collectif et la très probable mise en veille froide de l'usine de Vavuto. Malgré ce contexte, l'actionnaire majoritaire qu'est la SMSP estime qu'il est toujours possible de trouver un repreneur, affirme Karl Terby.
Oui, aujourd'hui, il y a toujours des groupes intéressés. On a un process de cession des actions qui est prévu en 2 phases. Une première phase qui est arrivée à échéance mi-juillet, qui correspondait à une offre de remise non engageante par les groupes intéressés. Et donc là, on a 3 groupes qui ont remis des offres. Donc on a ces groupes-là qui rentrent dans une phase 2, qui est une étude beaucoup plus approfondie de toute la documentation juridique, comptable, géologique de KNS. On avait avant le 13 mai 8 groupes qui avaient souhaité participer à cette première phase. Et suite aux événements du 13 mai, on a 5 groupes qui se sont désistés dans les 10 jours suivant ces événements, ce qui nous ramène aux 3 groupes qui sont restés jusqu'au bout de cette phase 1 et qui ont prolongé en phase 2.
Des offres qui sont donc sérieuses, notamment 2 d'entre elles qui proviennent de groupes internationaux détenant une forte capitalisation boursière. Et Karl Terbie estime que dans ce cadre, la question du rachat de la dette notamment ne se pose pas vraiment.
Le rachat de la dette, ça c'est effectivement ce que Glencore aurait souhaité, mais je pense que le marché répond et dans les offres reçues, il n'y a pas vraiment de place pour cette dette, hein, ce qui est assez une évidence, un petit peu comme Valais l'avait fait en partant de Pronieri Sourcils, hein, il a effacé sa dette avant de partir. On sait que ce genre de projet qui ne fonctionne pas à une capacité nominale, sont souvent vendus à des prix négatifs et avec une dette à zéro.
Et le fait de rester à 49% dans un projet comme celui-là?
Ça, c'est une des conditions initiales du partenariat. Ils savent que la SMSP est présente à 51%, apporteur de la ressource. C'est un des critères du document qui leur a été envoyé. Et aucun des groupes qui n'a répondu aux offres, pour l'instant, ne remet ça en question.
Sans refaire toute l'histoire de l'usine du Nord, Karl Terbie est également revenu sur l'échec du procédé de fusion de nickel développé à Vavuto. Et il reconnaît qu'il aurait fallu le changer pour faire quelque chose de plus simple. Autre échec, celui du pacte nickel proposé par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Des synergies étaient possibles entre les 3 industriels, a souligné Karl Terbie, à condition de faire baisser le coût de l'énergie. Mais ce dossier, admet le PDG de la SMSP, était aussi éminemment politique.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, après le report de son congrès prévu mi-juin à Netshao, le FLNKS doit-il, selon vous, réunir rapidement un congrès pour clarifier ses positions? Si vous pensez qu'il doit réunir rapidement un congrès, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Et vous le savez, le Mont d'Or Sud est toujours enclavé. Les navettes maritimes mises en place par la province sud peuvent transporter les habitants jusqu'à Nouméa. Mais une fois là-bas, Léo Fichou, un véhicule peut être bien utile.
D'autant plus en cette période où les transports en commun sont à l'arrêt. Depuis quelque temps, les demandes de transfert de véhicules par barge fleurissent sur les réseaux sociaux. Cette habitante de Nouméa a contacté un transporteur privé et en moins d'une semaine, un convoi a été mis en place. Pour 70 000 francs, son 4x4 et son bateau de 5 mètres ont été rapatriés du Mont d'Or Sud vers Nouméa.
On habite à Nouméa, nous avons notre véhicule, mais là, mon conjoint, il a besoin de son véhicule qui est resté chez ses parents. C'est la seule solution qu'on a pu trouver pour faire descendre notre voiture, parce qu'on a besoin de notre voiture qui est restée au Mont d'Or depuis 3 mois. D'en arriver jusqu'à payer notre propre voiture pour faire descendre, c'est compliqué, hein. On n'a pas trop le choix, en fait.
Selon les entreprises contactées, le prix du transport peut varier, tout comme le temps d'attente qui peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. Alexis habite à Ploume et travaille sur Nouméa. Il a lui aussi fait appel à une entreprise privée pour transporter son véhicule.
Ça fait depuis le 13 mai qu'on est bloqué et ça devenait compliqué d'emprunter des voitures à droite et à gauche. Donc on avait vraiment besoin, ma femme et moi, de pouvoir se déplacer pour aller tous les deux au travail. J'ai été contacté assez rapidement dès que j'avais pris rendez-vous avec un transporteur là pour transporter le véhicule sur la barge. Après, les délais d'attente ont été assez longs. Moi, je suis arrivé à 9h vendredi dernier. On avait un rendez-vous à 9h, 9h30 au Val-en-d'Or. On est parti, il était 17h, 10h d'attente hein, pour pouvoir faire transporter mon véhicule sur Nouméa. Il y a toute une logistique. Il faut être patient. Et c'est un petit moment que les Mondoriens ils sont patients et c'est fatigant et on n'en peut plus à un moment donné.
L'opération aura coûté 25 000 francs à Alexis. Plusieurs entreprises sur Nouméa et le Mont d'Or proposent le rapatriement de véhicules, mais elles se disent submergées par le nombre de demandes quotidiennes qui sont en hausse constante.
Et puis, le gouvernement a fait appel de la décision du tribunal administratif concernant les permis de conduire. Fin juillet, le tribunal avait annulé l'arrêté du gouvernement du 5 juillet 2023, faisant figurer les 2 drapeaux sur les permis de conduire, Gilles Ménage.
C'est en janvier 2024 que Génération NC avait décidé de saisir le tribunal administratif pour abus de pouvoir, car les signes identitaires doivent suivre un parcours très précis, avait expliqué alors le député Nicolas Metzdorf. L'accord de Nouméa prévoit en effet que les signes identitaires tels que l'hymne ou la devise doivent être adoptés par une majorité des 3/5 du Congrès Or, ce n'est pas le cas puisqu'aucun vote n'a eu lieu boulevard Vauban sur la question du drapeau. Un argument retenu par le tribunal administratif qui a donc ordonné au gouvernement de cesser de délivrer des permis de conduire comportant le drapeau du FLNKS. La semaine dernière, le gouvernement réuni en séance hebdomadaire a autorisé le président Louis Mapou à le représenter dans cette procédure d'appel qui est donc suspensive. La décision du tribunal administratif de Nouméa ayant été rendue sur le fond, c'est donc à la Cour d'appel de Paris qu'il reviendra d'examiner l'appel du gouvernement, sans doute dans plusieurs semaines. En attendant, la DI3T peut donc continuer à délivrer des permis de conduire avec les deux drapeaux.
Merci beaucoup Gilles Ménage, 17h56, l'heure de marquer une première pause dans ce journal. Et on se retrouve juste après et on parlera des différentes occupations des enfants pendant les vacances.
Cafards, termites, rats, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Léana Colombo.
Et depuis vendredi soir, vous le savez, c'est les vacances scolaires pour les écoliers du territoire. À cette occasion, de nombreux centres ou stages de vacances ont repris. C'est le cas au Mont d'Or, où les parents ont pu inscrire leurs enfants en stage de vacances du 5 au 14 août. Au programme, activités sportives le matin et culturelles l'après-midi. Avec une nouveauté ce mois-ci, un atelier de prévention routière. Une trentaine d'enfants étaient présents ce matin, soit un peu moins que le nombre normalement enregistré, comme l'explique Georges Itaïro, éducateur sportif au service des, du Mont d'Or, au service des sports du Mont d'Or.
On a eu, on va dire, 30 gamins. D'habitude, on est à 50, 60. Avec la crise, les gens ont du mal à s'inscrire. Et je pense que les parents, ils ont plus d'argent, peut-être. Ils sont moins inscrits pour cette période-là. Alors, il y a prévu du judo, de multisport, la course d'orientation, ainsi que la prévention routière. Ouais, plus content de pouvoir se retrouver, donc même nous retrouver aussi. Ça fait un bon moment déjà quand c'est pas revu, donc ouais, ils sont très contents.
Et pour autant, la bonne humeur était au rendez-vous ce matin chez les enfants, contents de pouvoir se changer les idées.
Foncez les filles, vous devrez attraper les garçons. Le Cécile est à côté du set.
C'est que j'ai fait des activités amusantes, j'ai fait de la course, comme de le relais, et j'espère qu'on va bien s'amuser. Et j'ai choisi le judo parce qu'en fait, ça se prend à se défendre.
Bah, on est tous ensemble. On fait du sport le matin et l'après-midi, on fait des choses artistiques.
Là, on fait une course d'orientation et on doit chercher des feuilles pour faire les questions. Et quand on trouve la réponse, on doit revenir ici pour le dire au moniteur.
C'est quoi ça? C'est quoi qui est gris là?
Ah, c'est gris.
Non, je peux pas aller derrière.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson. Cet après-midi, les enfants ont eu l'occasion de s'essayer au théâtre ou encore de découvrir les cultures japonaises ou néo-zélandaises. Et puis, pour les vacances scolaires, toujours, la FOL ouvre 3 centres de loisirs mixtes pour les enfants de 3 à 13 ans dans les écoles Russier, Coq et Gervolino. Et cet après-midi, Sarah Mégerie, nous étions au centre Gervolino.
Une quarantaine d'enfants ont pu profiter des activités du centre de loisirs de l'école Henriette Gervolino. Aujourd'hui, des activités variées autour des arts et de l'expression étaient proposés. Kylian, 11 ans, était très heureux de retrouver ses amis.
C'était très intéressant, très cultivant. Moi, j'aimais bien. On a fait plein d'activités, on a fait aussi la sensibilisation pour nos amis. En tout cas, j'étais très heureux de reprendre le colonie et c'était aussi un honneur de revoir tous mes amis. C'est une joie, comme ça, on arrête d'avoir peur et on sympathise avec les autres personnes qu'on ne connaît pas et j'espère qu'on pourra les connaître davantage et que ces événements ne reviendront plus jamais.
Et c'est aussi un point positif que les parents continuent de faire confiance au centre de vacances, explique Amandine Omar, la responsable pédagogique et des compétences à la FOL.
Les points positifs, c'est qu'il y a quand même eu plus d'inscriptions que ce qu'on pensait, puisque la semaine dernière, on était à vraiment une dizaine d'inscriptions. Finalement, sur les 3 centres, il y a à peu près une quarantaine d'enfants. Donc ça, c'est un point positif. Ça veut dire qu'il y a des parents qui continuent à faire confiance aux associations d'éducation populaire comme nous, et il y a aussi des parents qui ont toujours la possibilité de mettre leurs enfants. Le point négatif, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même des enfants qui auraient pu avoir accès au centre de loisirs mais qui ne peuvent plus, soit pour des raisons financières. Il y a les bons CCAS de la ville de Nouméa, par exemple, qui n'existent plus. Il y a toujours les bons CAFAT et les coupons bourse pour les enfants boursiers de la province, pour qu'ils puissent venir en centre de vacances. On sait aussi qu'il y a des difficultés de déplacement aussi pour certaines familles.
Pour pallier le problème de transport, il était important que le centre trouve une solution pour les enfants qui ne peuvent pas se rendre sur place, explique Rosemey Mouni, la directrice du centre Gervolino.
On a mis une navette en place qui part des quartiers nord, c'est-à-dire Rivière Salée, Normandie et 7e kilomètre, qui permettent aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens de les véhiculer jusqu'au centre aéré, qui part à 7h30 et qui démarre d'ici à 16h30 le soir. La navette, elle est gratuite pour tous les parents et tous ceux qui ont inscrit leurs enfants ici. Là, actuellement, ils sont une quinzaine, mais elle peut aller jusqu'à 30 enfants.
Notez que des places sont encore disponibles au centre de loisirs Gervolino pour la deuxième semaine de vacances.
Vous écoutez Info Soir, il est 18h02.
Et une idée supplémentaire de lieu où emmener vos enfants. La province sud a décidé de rouvrir mercredi le parc provincial zoologique et forestier à Nouméa et le parc des Grandes Fougères à Farino. Ces deux sites provinciaux très fréquentés étaient fermés depuis le début des émeutes et certains, comme le PPZF, ont subi des exactions. Dans quelles conditions vont-ils rouvrir? Que devient le parc de la Rivière Bleue? Nous en parlerons demain matin sur Radio Rythme Bleu et c'est Bastien Morvan, directeur de la 3DT, la direction du développement durable des territoires de la province sud, qui sera notre invité à 7h30. 18h02, l'heure de marquer une seconde page de publicité dans notre journal et nous verrons toute l'actualité sportive sur le territoire et dans le monde.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
La Fiat Panda hybride à 1 695 000 francs? Ou peut-être le pick-up Renault Rock à 2 295 000 francs? Et pourquoi pas le SUV Ford Kuga à 2 995 000 francs?
En ce moment, dans tout le groupe Jondo, difficile de choisir tellement les offres sont incroyables sur toutes les marques du groupe. Offre valable uniquement sur les véhicules signalés. Possibilité de financement et d'assurance tout risque avec nos partenaires. Plus d'infos sur les pages Facebook du groupe Jondo.
À ces prix-là, pas d'hésitation. On y va. Groupe Jondo, depuis 50 ans à vos côtés.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Liana Colombo.
Oui, effectivement, et on débute par un petit tour du côté des Jeux Olympiques à Paris.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et on parle sport et forcément des Jeux Olympiques. Le Calédonien Maxime Grousset ne repartira pas des JO de Paris-Bredouille. Il a remporté la nuit dernière la médaille de bronze sur le relais 4x100 mètres 4 nages, Léo Fichou.
Et oui, Maxime Grousset avait jusque-là réalisé des Jeux en demi-teinte, 3 finales mais aucune médaille. 5e sur le 100 mètres nage libre, 5e également sur le 100 mètres papillon et puis un forfait sur le 50 mètres nage libre. Mais le Calédonien s'est rattrapé de la plus belle des manières cette nuit sur le relais. Après Johan Endoy-Brouard sur le dos et Léon Marchand à la brasse, Maxime Grousset a réalisé un relais exceptionnel passant de la 3e à la 1ère place. Le Calédonien était sur un petit nuage après la finale.
Là, je me libère sur cette course. Je fais une super course, je sens l'équipe derrière moi qui me porte et toute la France. Donc voilà, c'est juste du plaisir là.
Maxime Grousset a passé le dernier relais en tête à Florent Manaudou. Malheureusement, le récent médaillé de bronze sur 50 mètres nage libre n'a pas pu résister au retour des relayeurs chinois et américains. Le relais français termine donc sur la 3e marche du podium. Maxime Grousset a remporté la même médaille que Solène Figuès aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, une médaille de bronze. La nageuse est fière que notre Calédonien réalise cette performance.
C'est génial, Maxime, d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques. C'est un moment magique. En plus, une médaille par équipe, c'est vraiment exceptionnel parce que il y a une autre sensation. Maxime a fait une course extraordinaire ce matin Il a donné tout ce qu'il pouvait pour la France, pour l'équipe. Et je suis si contente parce que les courses individuelles avaient été difficiles, il espérait mieux, il a très bien nagé, on est aux Jeux Olympiques, il y a beaucoup de pression, on est en France et là qu'ils reviennent avec la médaille, je suis très très fière de lui.
Maxime Grousset a donc remporté la première médaille calédonienne lors de ces Olympiades, puisqu'avant lui, on le rappelle, Yolène Yengo et l'équipe de France de rugby à 7 avaient terminé à la 5e place du tournoi olympique de rugby à 7. En voile IQ Foil, Nicolas Goya avait complètement raté ses qualifications, terminant seulement 15e. Et puis Emma Terebo en natation avait fini 7e de la finale du 100 mètres d'eau, 6e du relais 4x100 4 nages. Et elle n'avait pas réussi à se hisser en finale du 200 mètres d'eau. Mais il reste encore des chances de médaille calédonienne, 2 notamment d'abord ce soir, ce soir et cette nuit, si la météo le permet, à Tahiti pour Kaoli Vast, dont la maman est calédonienne. Il est en demi-finale du surf. Et puis, il y aura Bassa Mawem en escalade de vitesse. Sa compétition commence demain soir, dès 22h, heure de Nouméa.
Et puis, du surf à Tahiti demain matin et pas mal de sport encore à Paris ce soir et cette nuit, Léo.
Et oui, on le disait, le surf avec la demi-finale de Kaoli Vast. Mais en ce moment, il y a le triathlon mixte par équipe. On espérait une nouvelle médaille pour la délégation française, puisque Pierre Lecor, Emma Lombardi, Léo Bergère et Cassandre Beaugrand sont alignés. On le rappelle, ils ont tous les quatre terminé dans le top 4 des épreuves individuelles. Malheureusement, ça se passe très mal pour nos Français qui sont dans les dernières positions après une chute en vélo de Pierre Lecor. Dans la nuit, on espère aussi des podiums en kayak sur le slalom cross masculin et féminin, mais aussi en surf, on le disait. Il y a Kaoli Vast et Johan Defay, et puis en lancer de disque avec la porte-drapeau, tricolore Mélina Robert-Michon. En football, les joueurs de Thierry Henry affrontent l'Égypte en demi-finale du tournoi olympique. Autre demi-finale, celle des basketteurs 3 contre 3 face à la Lettonie. Et enfin, il y aura du volley. Les Français disputent les quarts de finale face à l'Allemagne.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et c'est Laurent, habitant Nouméa, qui est aujourd'hui le gagnant de notre jeu de mémoire de jeu. Il remporte un bon carburant de 5000 francs offert par notre partenaire Shell. Nous vous demandions lequel de ces sprinteurs n'a jamais remporté le 200 mètres olympique. Vous aviez le choix entre Linford Christie, Carl Lewis ou Pietro Mennea. La bonne réponse était Linford Christie. Le Britannique n'a jamais remporté le 200 mètres olympique, mais il a décroché l'or sur le 100 mètres au JO de Barcelone en 92. L'Italien Pietro Mennea a remporté le 200 mètres olympique au JO de Moscou, et c'était en 1980. Quant à l'Américain Carl Lewis, il a remporté le 200 mètres olympique au JO de Los Angeles en 1984. Lors de ces mêmes Jeux, il a aussi obtenu l'or sur le 100 mètres, le 4x100 mètres et le saut en longueur. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle question de mémoire de jeu sur RRB. Et puis du sport, il y en avait aussi sur le territoire ce week-end avec le championnat territorial de padel, Léo.
Et oui, on en a parlé ce matin dans le magazine des sports. Les championnats territoriaux se sont terminés ce week-end et ce tournoi a rencontré un beau succès, signe que la discipline se porte bien. Nous recevions Philippe Morin, responsable du padel à la Ligue calédonienne, ainsi que les deux gagnantes chez les féminines, Lindsay Moto-Nekiriai et Célia Pérez. Extrait.
Deux week-ends exceptionnels, énormément de monde, énormément d'ambiance. Un monde qui est venu, c'était exceptionnel. 200 participants, une centaine d'équipes. Donc deux week-ends bien pris, énormément de matchs. Je pense que les compétiteurs avaient hâte de redémarrer la compétition. Je pense que c'est le coup d'envoi pour la suite, hein, puisque la saison va redémarrer. Donc on est en train de refaire les homologations et les tournois pour la saison prochaine. Mais on a vraiment démarré en beauté ce début, on va dire, ou cette fin de saison plutôt, parce qu'on est sur la fin de saison padelistique. Et avant de redémarrer, j'espère de plus belle.
Le ressenti des joueuses heureuses gagnantes, Lindsay Moto-Nekiriai et Célia Pérez.
Pour ma part, ça a été un week-end de très chargé, mais en tout cas c'était un très beau tournoi sur les deux week-ends. Super ambiance, super rendez-vous avec les copains, les copines, et ça faisait du bien aussi de se retrouver après un long moment sans sport, sans padel. C'était génial.
Et on était vraiment contents de pouvoir tous se retrouver. C'est chouette parce que l'ambiance était là, les gens sont venus voir les matchs sur les deux week-ends, même pour les qualifications de la semaine dernière. Donc ça c'était vraiment cool, ouais.
Chez les hommes, c'est le duo Lorenz Pesley et Nicolas Ngodrella qui l'a emporté. Les vainqueurs, hommes et femmes, se sont qualifiés pour les championnats de France de paddle qui sont prévus en métropole à Strasbourg du 13 au 15 septembre.
Et on reste dans la région pour la suite et fin de cette page consacrée au sport. Il y avait du football cet après-midi, Léo.
Les U16 calédoniens disputaient à la mi-journée le troisième match des phases de poule du championnat océanien de leur catégorie d'âge. Pour garder une chance de se qualifier pour les demi, ils devaient obligatoirement s'imposer face aux îles Salomon. Et c'est c'est chose faite avec la manière. D'ailleurs, les jeunes cagous se sont imposés 6-2 grâce à ce succès et à celui de Tahiti sur les Samoa. Les Calédoniens sont dans le dernier carré. En demi-finale, jeudi, ils affronteront la Nouvelle-Zélande. Et on le rappelle, les finalistes et le vainqueur de la petite finale seront qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde de leur catégorie d'âge.
Merci beaucoup Léo Fichou. Et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Allez Nicolas, dites-nous tout, que nous réserve la météo?
Alors, cette nuit, des nuages persisteront sur les extrémités nord et sud, ainsi qu'au Loyauté. Sur les autres régions, le ciel sera le plus souvent dégagé à peu nuageux, excepté au Loyauté où l'alizée de sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Ailleurs, il se rapproche de 15 nœuds. Les températures minimales augmenteront légèrement, mais resteront inférieures au normal, souvent entre 14 et 19 degrés, descendront même jusqu'à 12-13 degrés, ce serait sur l'ouest. Demain matin, le soleil l'emportera largement sur l'ouest. Ailleurs, passages nuageux et éclaircies alterneront avec des averses qui aborderont Belep. L'alizée de sud-est s'établira entre 15 et 20 nœuds. Il sera temporairement plus faible sur le nord-ouest, entre 10 et 15 nœuds, Liana.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. C'est la fin de cette édition.